Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler nucléaire. Comme d'hab, c'est complexe. On se prend donc un peu la tête pour comprendre ce qui est sournoisement en train de se passer. D'abord, quelques faits. En février 2022, le président Macron nous annonce qu'il veut relancer la grande aventure du nucléaire civil en France. En deuxième partie, il nous sème les cailloux, entendez les lois, qui vont permettre cette relance, alors que les Français sont occupés en ce moment par le grand débat sur la retraite. Alors, est-ce nécessaire? Faut-il du nucléaire pour enrayer le réchauffement climatique? Ce n'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Nous y reviendrons puisque c'est dans la prochaine loi de programmation énergétique que sera décidée en juin, à savoir la place du nucléaire dans le mix énergie. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir comment s'en prépare l'acceptation. Car selon les habitudes macroniennes, il faut aller vite. Et dans ce contexte, et avant le passage à l'Assemblée de la loi sur l'accélération du nucléaire, tout s'accélère. Le 8 février tombe une annonce qui annonce que les deux principaux gendarmes du nucléaire, l'IRSN, l'Institut de radioprotection de la sécurité nucléaire, et l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, que le gouvernement veut les fusionner. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est pour conforter leur indépendance et pour fluidifier les relations entre expertise et décision. Cette annonce, bien sûr, va entraîner immédiatement des réactions, dont celle de Thierry Charles, l'ancien directeur général adjoint de l'IRSN, qui, devant l'Association des journalistes de l'environnement, nous déclare:
la question qui se pose, c'est la méthode qui est mise en œuvre. Qu'il y ait une réflexion sur le fonctionnement pour voir quelles améliorations sont à apporter, c'est tout à fait sain sur le principe. Par contre, ça ne se fait pas comme ça, sans, avec un communiqué de presse qui apparaît à un moment donné en disant « demain, on supprime l'IRSN », sans qu'il y ait même d'explication précise de quel est le problème, de qu'est-ce qu'on veut améliorer et où on veut aller. Quand on a un système qui est reconnu avec des acteurs qui ont fait leurs preuves, supprimer du jour au lendemain sans explication l'un d'entre eux, ça interroge. Et je trouve que ce n'est pas une bonne méthode pour pouvoir créer de la confiance dans le cadre à un moment où on veut relancer un programme nucléaire. Et le deuxième point qui est encore plus important à court terme, c'est la déstabilisation que cela peut induire pour le système. Il faut bien comprendre qu'actuellement, 58 réacteurs fonctionnent. Certains ont des difficultés. On voit que dernièrement, les problèmes de corrosion sous contrainte ont conduit à des arrêts. Il y a des besoins d'examen poussés de la phénoménologie pour comprendre quel est le problème, pour voir ce qui doit être fait. Et ce n'est pas le moment d'avoir un système de contrôle qui commencerait à avoir des difficultés. Et on voit bien qu'en matière de déstabilisation, si on revient sur ce sujet-là, il y a deux aspects à traiter, il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a le premier sujet qui est l'IRSN, il faut le voir comme la fabrique de l'expertise et également la fabrique de l'expert. Parce qu'une expertise, ça veut dire expert, ça veut dire expérience, ça veut dire connaissance. Et donc, la capacité de l'IRSN, ça a été au fil du temps, en s'appuyant sur tout ce qui a été fait du temps de l'IPSN, donc ce n'est pas uniquement les 20 ans de l'IRSN, mais c'est finalement les quasiment 40-50 ans de l'expertise de sûreté, il a construit pas à pas un système intégré à son organisation qui permet de former des experts de sûreté et d'autoprotection. Parce qu'il n'y a pas d'école pour ça, hein. Il n'y a pas d'école, donc il faut, ce n'est pas de l'ingénierie, c'est une méthode différente, et donc il faut former des gens qui ont la capacité justement à comprendre les problèmes, à les analyser et à produire un avis opérationnel pour l'autorité. L'objectif, c'est à la fin effectivement que, partant de cet avis, l'autorité ait les moyens de prendre sa décision. Donc par rapport au point d'amélioration, il est clair que en matière de fluidification, qu'est-ce qui empêche que systématiquement, pour les sujets importants, le collège reçoive des experts de l'IRSN lorsqu'il est en train de prendre sa décision pour se faire son avis? Il n'y a aucune difficulté. L'IRSN ayant fait son avis, il peut aller sans problème le porter auprès du collège, et il peut y avoir un approfondissement finalement des relations dans le cadre de l'expertise avec l'ASN. Il y a des méthodes pour rapprocher les équipes qui sont de très proches, finalement, pour aller un peu plus dans la fluidité, sans pour autant conduire à une fin telle qu'elle est annoncée.
Alors, la nouvelle va créer, bien sûr, des remous dans tout le landerneau politique. Plusieurs auditions à l'Assemblée nationale, au Sénat, des auditions des directeurs de l'intersyndicale, de l'OPSET, l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui régulièrement a auditionné les deux organismes et les connaît bien, vont avoir lieu. Et surtout, on découvre au cours d'une de ces auditions, notamment des auditions parlementaires, l'étonnement de Claude Birot, qui est l'ancien député dont le rapport a sorti le nucléaire de l'emprise du CEA et du seul ministère de l'Industrie. Alors, c'était en 2006, donc le programme électronucléaire avait déjà un peu de bouteille et bien sûr, il se faisait remarquer essentiellement par son opacité. Alors, on l'écoute lors d'une audition devant les parlementaires et sur la confiance, il rejoint en quelque sorte un peu l'avis de Thierry Charles.
L'organisation qui est prévue me paraît recéler une méconnaissance grave de l'organisation de la sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire, ce n'est pas un nirvana que l'on atteint un jour en disant « ça y est, j'ai atteint la sûreté nucléaire ». La sûreté nucléaire, c'est un combat de tous les jours. Et lorsque je rencontrais les organisations syndicales, elle me disait, nous sommes, nous, les travailleurs du nucléaire. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous auriez peut-être pu aussi inviter les organisations syndicales à s'exprimer. Et les travailleurs du nucléaire, ce ne sont pas des travailleurs comme les autres. Et la sûreté nucléaire, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de la confrontation entre l'expertise, la recherche, l'autorité de sûreté nucléaire. Et c'est de cette confrontation-là que va naître tous les jours la sûreté nucléaire. On ne l'atteint pas une fois pour toutes. Elle se fonde sur la recherche. Et elle se nourrit de la recherche. Et aujourd'hui, si la recherche devait partir au CEA, ça me paraîtrait quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi? Parce que on serait dans une sorte de confusion des genres. Confusion des genres, parce que l'autorité de sûreté, elle a aussi autorité sur les installations du CEA. Or, comment juger de la sûreté d'une nouvelle installation si la recherche sur laquelle s'appuiera son expertise est faite au CEA? Ça me paraît être une confusion des genres qui est fortement préjudiciable à l'organisation même de la sûreté. Et l'autre chose qui me paraît importante, le nucléaire aujourd'hui a un certain regain d'intérêt compte tenu de la crise énergétique. Il y a une confiance du public qui a été difficile à obtenir parce qu'il y a 40 ans, on disait « c'est tous les mêmes ». Le gouvernement, le ministère de l'Industrie, ce qu'on appelait le zinzin, l'IPSN, le CEA, c'est les mêmes. EDF, on ne peut pas avoir confiance. Tout le travail de toutes ces années, sous l'impulsion de l'Office parlementaire et d'autres, a été de séparer les fonctions d'expertise, de recherche et de régulation administrative. Aujourd'hui, imaginez une installation de recherche du CEA sur laquelle l'ASN doit se proposer. Prononcée. Elle va faire appel à ses experts. Où est-ce qu'elle a le service de recherche qui pourra la conseiller, puisqu'elle n'aura plus de recherche? Elle va la prendre au CEA et va être juge et partie. Et ça, c'est un recul que vous ne mesurez pas, mais c'est un recul de 40 ans. Et je crois qu'il ne faut pas rompre brutalement, casser cette confiance qui, au fil du temps, s'est noué sur l'organisation actuelle.
Alors, effectivement, aussitôt cette annonce, on a eu une espèce d'unanimité à reconnaître que le système de séparation entre l'IRSN et l'ASN était bienvenu. Et on a immédiatement soupçonné le gouvernement de cacher la plus mauvaise des intentions, c'est-à-dire de diminuer les exigences de la sûreté nucléaire pour favoriser la construction plus rapide, la plus rapide possible, des EPR programmés. Alors, Marisa Arditi est au téléphone avec nous aujourd'hui. Elle est physicienne nucléaire et elle a participé à toute cette histoire. Bonjour Marise.
Bonjour.
Alors, vous êtes à Narbonne et c'est pour ça que vous êtes encore avec nous au téléphone. Depuis des années, vous suiviez le dossier d'une usine à Malvézy, près de Narbonne, qu'on connaît mal et qui est pourtant fondamentale dans le rôle du nucléaire.
C'est l'usine, j'ai toujours appelé l'usine oubliée des antinucléaires. Parce que, en fait, souvent les antinucléaires, ils partaient de la mine et puis après la mine, ils allaient enrichir. Puis ils oubliaient qu'entre la mine et l'enrichissement, il fallait une usine qui nettoie le minerai d'abord, qui le mette en forme de qualité nucléaire et qui commence à le préparer pour aller à l'endroit de l'enrichissement. Cette usine, c'est Malvézy, c'est à Narbonne. Et c'est une usine qui traite le quart de l'uranium mondial.
Alors, vous faites partie des signataires de la Tribune du Monde qui s'étonne de la proposition de fusion. Alors, vous venez d'entendre ce que Claude Biro a déclaré aux parlementaires lors d'une audition. Est-ce que vous partagez ces propos?
Oui, bien sûr. L'OPEX a effectivement, après beaucoup d'analyses, fait un travail qu'il fallait effectivement séparer celui qui allait donner les autorisations de celui qui allait faire l'analyse des risques liés à cette autorisation. De manière à ce que... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque on doit donner une autorisation ou pas, bien sûr, on va prendre en compte les risques, c'est évident. C'est un gros... Mais pas seulement. On va prendre en compte les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques, les enjeux de rentabilité, les enjeux socio-économiques. Et une fois qu'on aura pris tout ça, on aura aussi le risque. Mais si celui qui doit prendre la décision, il a déjà tout ça en tête avant même de commencer à faire l'analyse des risques, il va biaiser son analyse. Donc il est très très important que celui qui fasse l'analyse des risques n'ait rien à voir avec la décision à prendre. Il ne fait que l'analyse des risques et il remet tout ce qu'il sait à celui qui prendra la décision.
Alors comme l'a dit Biro, donc la confiance, ça se construit.
Oh, ça se construit. Il a fallu du temps pour que l'IRSN acquiert une vraie confiance, qu'on comprenne qu'il avait un rôle très particulier et qu'il acceptait d'assumer ce rôle et seulement ce rôle. On a mis du temps.
Alors, on a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et comment c'était, justement, vous avez vécu toute cette période que vous appelez « on a mis du temps ». Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Parce que, en fait, aujourd'hui, on a tellement fait d'une certaine manière, on a tellement fait confiance à l'IPS, à l'IRSN, qu'on a un peu oublié de ce qu'étaient les inconvénients du nucléaire avant.
Les inconvénients, ils sont toujours là. Hein. C'est les mêmes. Ça n'a pas changé. Simplement, l'IRSN a mission d'y faire un maximum attention de manière à limiter au maximum les risques. Si vous voulez. Après Fukushima, l'IRSN a fait des analyses assez pointues. Et puis finalement, on a fini par dire à un moment donné à l'exploitant, donc à EDF, « Bon alors, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez plus d'électricité et plus d'eau ?» EDF répond « Mais c'est impossible. » Je dis « Je ne vous demande pas de savoir si c'est possible. Je vous demande de me dire qu'est-ce que vous feriez dans un cas comme celui-là. » Autrement dit, on a été jusqu'à mettre l'industriel dans des cas extrêmement rares, mais on sait très bien que si à un moment donné il y a un pépin, ce sera évidemment sur un cas extrêmement rare. Donc il faut savoir aller au bout du risque. Voilà. Et l'IRSN a mis du temps à le savoir. Moi, honnêtement, les trois premières années, je me disais, c'est les mêmes, mais bon, ils prennent un peu de distance avec le CEA, c'est un peu mieux. Mais bon, voilà. Là où je pense qu'il y a eu un vrai tournant, c'est au bout de 3 ans de l'existence de l'IRSN, un contrat avait été passé entre le CEA et l'IRSN, et on a dit à tous les gens qui étaient à l'IRSN, si vous voulez, vous pouvez retourner au CEA. Sous-entendu, si vous retournez au CEA, vous aurez une meilleure carrière, sera mieux payé, il y a 20 000 chercheurs, c'est plus facile de monter, là, l'IRSN, vous resterez cantonné. Donc, on leur a fait cette proposition. un certain nombre sont partis. Ceux qui sont restés, c'est donc qu'ils ont choisi de rester. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu une espèce de tournant dans l'IRSN. Les gens qui étaient là, ils avaient choisi d'être là. Et donc, ils avaient accepté d'assumer une chose et une seule, limiter au maximum les risques du nucléaire et assurer la radioprotection. Voilà, et ça, c'est un, je pense que c'est un virage important.
Et alors, vous pensez que, en ce qui concerne la décision qui est arrivée par communiqué de presse, là, a été un peu rapide, justement, par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer?
C'est pas un peu rapide, c'est carrément hallucinant. Que sur un sujet aussi important que celui-là, un jour, un mec, fut-il le président de la République, se réveille et dit « Bon, faut vraiment qu'on aille vite hein. ». L'ASN m'a dit que si elle avait beaucoup plus de monde, elle irait plus vite. Eh bien, on va lui fourguer tout l'IRSN, avec ça, elle devrait aller plus vite. En gros, je résume, mais c'est un peu ça. Sur un sujet d'une telle ampleur, moi, je rappelle quand même que l'Amérique a eu un gros pépin, la Russie a eu un gros pépin, le Japon a eu un gros pépin, le dernier et seul gros pays nucléaire, c'est nous. Peut-être que si on n'a pas eu de gros pépins, on est passé plusieurs fois pas loin, hein, quand même. Rappelez-vous, on est passé plusieurs fois pas loin. Eh bien, je crois que c'est parce qu'on a un système de sûreté qui s'est affiné au cours du temps et qui est maintenant bien dans ses bottes et bien dans une vision d'ensemble. Le casser du jour au lendemain, au moment où le gouvernement dit « Bon, bah, en plus, on va y aller maintenant, on va y aller vite, hein, on va en faire 6 dans 12 ans. » Alors que là, ça fait 15 ans qu'on essaye de faire le premier.
Alors, on va revenir sur cette capacité d'indépendance de l'IRSN. Mais avant, on va écouter François Geoffroy qui nous parle au nom de l'intersyndicale de l'IRSN, donc au nom des salariés, et qui exprime un peu une crainte, hein, c'est-à-dire que l'IRSN, finalement, ne s'occupait pas seulement de la sécurité nucléaire. Hein. Écoutons-le.
Qui nous a, comment dire, qui a voulu nous vendre le fait que des salariés. Aujourd'hui, nous sommes des salariés de droit privé dans un établissement public sous la tutelle de 5 ministères et que demain, nous gagnerons en indépendance parce que nous serons dans une autorité administrative indépendante. Et c'est là, je pense que ces personnes de cabinet n'ont pas compris comment se construit la confiance. La confiance, elle ne se construit pas sur la base d'étiquettes, mais sur la base de pratiques au quotidien. Donc ça, c'était sur l'indépendance. Le deuxième point, c'était sur la transparence et l'ouverture à la société. Et là aussi, je pense que dans les cabinets, ils ont sous-estimé le travail de fourmi qui a été fait depuis 20 ans par l'ensemble des salariés de l'IRSN, avec tous les interlocuteurs et une députée que l'on rencontrait pour la convaincre de rejeter l'amendement qui sera soumis par la ministre, par le gouvernement, disait « J'ai été très surpris, j'étais allé faire mon marché, j'ai été interpellé par le maire de la commune d'à côté qui m'a dit « Mais quelle idée vous avez là tout d'un coup de supprimer l'IRSN ?» Moi, en tant que maire, entre d'un côté le discours de l'exploitant nucléaire, caricaturalement, en gros, il n'y a pas de problème, et les antinucléaires, ça va sauter demain, je trouve à l'IRSN des avis pondérés, fondés sur des… Voilà, donc elle a été interpellée par ce maire, et puis un peu plus loin, elle nous dit « Un médecin… » qui travaille dans un CHU, lui dit « Mais moi, je suis en médecine nucléaire et il y a aussi une très grande disponibilité. » Voilà, donc ce côté ouverture à la société, accessibilité, là, nous pensons vraiment qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un expert indépendant qu'à l'autorité.
On verra bien sûr que, bien sûr, tous ces domaines, que ce soit la médecine, etc., ne seront peut-être pas repris par l'ASN. Mais Maryse, y aurait-il une compétition d'indépendance entre les deux organismes? C'est-à-dire, a priori, c'est un organisme public comme celui de l'ASN qui devrait davantage enclencher la confiance. Et d'ailleurs, on ne peut pas reprocher aux trois précédents présidents qui d'avoir cédé soit à des pressions politiques, soit à des pressions de l'exploitant. Alors, pourquoi y a-t-il eu quand même ce soutien à l'URSN?
Mais parce que, par exemple, moi, si je prends un instant ma casquette d'association, l'IRSN a mené une politique qu'on appelle d'ouverture à la société civile, mais qui n'est pas seulement le suivi de la radioprotection, ce qui est très important, mais qui sait aussi de faire des tas de groupes de travail, de journées de formation. On pouvait vraiment... ceux qui connaissaient un peu dans le sujet, qui savaient de quoi ils parlaient, on pouvait dire à l'IRSN, ce serait bien de faire quand même une journée sur où on en est sur les faibles doses. bon, un des sujets cruciaux du nucléaire qu'on connaît, voilà. Et ben, un beau jour, ils nous ont dit d'accord. Ils ont monté une journée avec les différents intervenants de chez eux qui intervenaient, des intervenants extérieurs, et il y avait une salle où il y avait... Alors, elles n'étaient pas très nombreuses, on était 30 à 35, parce qu'elles étaient volontairement fermées pour qu'on puisse poser toutes les questions, parce que si vous mettez 80 personnes, on ne peut plus poser les questions. Voilà. Et des choses comme ça, il y en a eu plusieurs. Par exemple, là, sur la prolongation des centrales nucléaires, là, qui étaient pour 40 ans, qui vont peut-être passer à 50, puis à 60, eh bien, il y a peut-être une journée... Ils ont fait une journée, parce qu'on leur a demandé, une journée générique, de ne pas dire ce réacteur ou un autre, mais tous les réacteurs, d'essayer de réfléchir à l'ensemble des problèmes que ça peut poser.
Alors,
de prolonger.
Il ne faut pas oublier non plus que le nucléaire civil est très lié dans notre pays au nucléaire militaire et qu'on sait que le ministère des Armées, c'est la grande muette et que très souvent, notamment des associations comme Greenpeace, ont été accusées de dévoiler des secrets. Quoi. Alors, oui ?
Oui, j'allais dire... Ça, je pense que la disparition de l'IRSN, ça fera au moins disparaître un truc qui fera plaisir à l'establishment, à Macron et à d'autres, c'est qu'il n'y aura plus la société civile, il n'y a plus personne qui viendra lui expliquer ce qui se passe vraiment.
Alors là, il nous reste à peu près 5 minutes. On aurait encore beaucoup de sujets à aborder. Mais il y en a, on voit aujourd'hui que finalement, les arguments sont en train de se forger de l'autre côté. Et si on avait cette espèce d'unanimité au départ contre la fusion, on voit aujourd'hui se développer dans les médias des arguments comme quoi, finalement, c'est vrai que supprimer un échelon, ça va permettre d'aller plus vite, ça va permettre économiquement de rentabiliser davantage le nucléaire, ça va permettre d'aller plus loin. Alors, vous en pensez quoi ? En fait, on est en train de fourguer la sécurité contre l'économie.
Ah oui, non mais attendez, quand on décide qu'on veut essayer d'aller plus vite, environ une strate, et la strate qu'on décide de virer, c'est l'évaluation des risques et la maîtrise des risques. Ah ben, excusez-moi, ben je délire, quoi. Je rêve éveillé. On peut choisir de retirer d'autres choses, mais dans un domaine comme le nucléaire, on ne peut pas choisir de dire on va faire la sécurité au rabais.
Alors,
ça paraît invraisemblable.
Est-ce que c'est vrai, par exemple, que les États-Unis vont plus vite que nous et que économiquement, on est en train de se mettre un caillou dans la chaussure en ayant nos deux structures ?
Alors, de toute façon, les États-Unis, ils vont pas plus vite que nous. Les États-Unis, ils ont à peu près arrêté de faire du nucléaire. Hein. Ils gèrent ce qu'ils ont encore. Mais en gros, voilà, ils n'ont pas relancé de nucléaire. Donc, c'est pas de savoir s'ils vont vite ou pas. Quant à, si je veux prendre un autre exemple, nous, on veut enfouir les déchets nucléaires hautement radioactifs à Bure. Eux, ils ont déjà commencé. Et celui qu'ils ont commencé, il y a déjà eu un incendie au fond. Il a fallu qu'ils arrêtent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ils ne savent pas s'ils pourront redémarrer. Donc, voilà. Donc, le problème, ce n'est pas d'aller plus vite ou moins vite. Le problème, c'est toujours, dans un truc qui est dangereux comme ça, d'avoir un maximum de sécurité de son côté. Je voudrais juste vous dire un truc, parce qu'on nous dit toujours, oui, mais finalement, à Fukushima, il n'y a pas eu de mort. Enfin, les seuls morts, c'est ceux du tremblement de terre. Voilà. Mais en fait, le maire d'une des communes qui a été évacué la dernière parce qu'on n'avait pas repéré qu'il était sous la pluie, il a expliqué aux gens qui sont venus le voir, il a dit, mais quand on a un tremblement de terre, un tsunami comme ça, on sait, hélas on sait, on a l'habitude, on sait ce qu'il faut faire, on fait tout ce qu'on peut pour préserver les gens, après on enterre nos morts, on reconstruit, on nettoie tout et on repart. Mais là, moi maintenant, je ne peux pas repartir dans le nucléaire, j'ai un site qui est complètement contaminé. Même si je décontamine, les forêts qui sont juste à côté, elles, sont contaminées. Et à chaque coup de vent, je serai à nouveau contaminée. Donc je ne peux même pas refaire démarrer la vie.
Alors, ça, on va en reparler parce que on a eu Ribot est venu à Montpellier nous présenter son film sur Fukushima, nous parler de son livre sur la résilience. Donc, on sait que pour l'instant, c'est l'UPSET qui va jouer un peu le rôle d'arbitre au sein de ce débat qui est en train de se gérer. Bon, on le voit évoluer de jour en jour quand même. Alors, l'UPSET, hein, qui, je rappelle, l'Office parlementaire d'évaluation des des choix technologiques et scientifiques, demande que soient actées dans une loi ces conditions à la fusion. Et il réclame donc une analyse de tous les systèmes internationaux, justement pour aller à l'encontre de ce qui se diffuse aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'on va l'entendre ?
Ah ben écoutez, moi je crois que c'est très simple. Ou bien les députés, qu'ils soient de droite ou de droite, ça n'a pas d'importance ce coup-là. Les députés sont capables de se pencher sur le dossier. Et à ce moment-là, on doit pouvoir arriver au fait que l'amendement en question soit refusé. Moi, je pense que beaucoup de gens sont passés par l'OPEF. Ils savent ce que c'est. Il y en avait des gauches, il y en avait de droite. Ils savent ce que c'est. Ils savent que la sécurité, ça ne doit pas se prendre au haut. Donc, ou bien, l'enjeu maintenant, il est au Parlement. Ou bien, tout de suite, là, comme ils ont fait un coup fourré incroyable, ils ont fourgué l'amendement à l'intérieur d'une loi qui avait déjà passé son premier tour. Hein. Autrement dit, le Sénat n'a pas approuvé, il ne l'avait pas encore, l'amendement. Il l'a fourgué entre le Sénat et la Chambre. C'est incroyable. Donc, ou bien les députés ont un peu de bon sens et ils disent, ou je ne sais pas, même s'ils n'osent pas le refuser complètement, ils disent, faut une étude complète avant de savoir si on peut le faire, faut une étude d'impact, faut une étude machin, etc. Et on se donne le temps et on verra après réflexion si oui ou non. Mais bon, moi je crois qu'il n'y a pas d'autre solution là, compte tenu de la manière dont ils ont essayé de coincer tout le monde, parce que c'est ça, hein, fourguer un amendement alors qu'une loi est déjà démarrée, qu'elle a passé le Sénat, qu'elle est à l'Assemblée, et qu'on dit, ah ben on vous rajoute un petit amendement là, juste un... Et le petit amendement, c'est on fait sauter la sécurité nucléaire. Moi, j'y crois pas une minute. J'espère quand même que là, on aura quelques... Même les pro-nucléaires. Parce que même les pro-nucléaires ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de groupe pépin. C'est ça qu'il faudra comprendre. Même ceux qui sont farouchement pour le nucléaire, ils ont quand même intérêt à ce qu'il n'y ait pas de pépin. Donc voilà, donc normalement, la sécurité ne se brasse ni du côté des pro-nucléaires, ni du côté de ceux qui s'en foutent.
Bon, mais Maryse, merci. Je sais qu'on a encore énormément de choses à dire sur ce problème du nucléaire. On y reviendra en juin. En tout cas, au revoir. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va défendre le vivant. Et en attendant, si vous voulez lire, il y a un livre de Marine Calmé qui est l'empêcheuse de tourner en rond. C'est devenir gardien de la nature chez Tana Édition. Et elle sera avec nous au micro tout à l'heure pour en parler.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.